BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Il est presque 7h. Bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. C'est reparti pour l'offensive droit de douane. Donald Trump dégaine à nouveau cette arme contre le Brésil, le Canada et même l'Europe. Il accuse cette fois l'Union européenne de ne pas lutter assez contre le travail forcé. On va voir ça dans le détail dans un instant. Et puis ce nouveau rebondissement dans la course entre géants de l'IA. Le français Mistral vient de signer un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft pour lui fournir de la puissance de calcul en Europe. On va voir ça dans un instant. Les autres titres, Léo, ce matin.
Donald Trump met en garde les Houthis contre tout blocus en mer Rouge. Eux ont écrit aux armateurs pour leur dire d'éviter le secteur. On fera le point dans le journal. Les semestriels de Tesla à suivre ce soir à Wall Street après de bons chiffres en Europe sur le début d'année. Et puis Bercy veut faire baisser le prix du paracétamol.
Dans la prochaine heure, ce nouveau serrage de vis en perspective pour le CPF. Le gouvernement entend conditionner chaque achat de formation à la validation de cette formation par l'employeur, l'APEC ou France Travail. Est-ce la réforme de trop? On va en débattre dans 10 minutes avec Emmanuel Lechypre et Raphaël Legendre. Et puis, le régime de catastrophe naturelle doit se repenser face aux canicules, aux sécheresses, aux incendies, aux inondations. Comment garantir la pérennité du système? On va en parler avec Édouard Vieillefonte, directeur général de la Caisse Centrale de Réassurance. Il sera dans le grand entretien à 7h45. La matinale de l'économie, c'est parti, soyez les bienvenus.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good morning business. Le journal.
Donald Trump relance donc la valse des droits de douane, Léo.
À quelques heures maintenant de l'expiration des 10% de surtaxe temporaire, celle qui avait pris le relais des droits de douane supprimés par la Cour suprême. Alors il y a maintenant une annonce presque tous les soirs à Washington. 25% sur une série de produits brésiliens, ça rentre en vigueur ce matin. 50% sur le Canada dans un mois. Et puis cette nuit, Donald Trump ajoute 100% sur tous les médicaments génériques qui entrent aux États-Unis. La collecte commencera là dans 2 ans, le 1er août 2028. Mais tout ça n'est que le début. L'administration Trump prévient qu'une soixantaine d'économies sera ciblée prochainement et l'Union européenne n'y échappera pas, Caroline Morisseau.
La Commission européenne se prépare un nouveau bras de fer avec les États-Unis. Après le revers infligé par la Cour suprême, Donald Trump a en effet trouvé un nouvel argument pour rétablir des surtaxes. Il accuse l'Union européenne, comme beaucoup d'autres partenaires commerciaux, de ne pas lutter assez efficacement contre le travail forcé et menace donc à ce titre d'instaurer une nouvelle surtaxe de 10% sur tous les produits européens qui bénéficient, selon lui, du travail forcé. Ces accusations sont fermement contestées par l'Europe. C'est totalement absurde. On a la législation la plus stricte au monde, rétorque un haut responsable. Pour autant, la Commission européenne se prépare à négocier. Elle se dit prête à accepter ces nouvelles taxes liées au travail forcé, à une condition: que Washington respecte son engagement, plafonner les droits de douane sur les exportations européennes à 15%, qu'importe l'argument invoqué, tant que ce qui a été convenu est respecté, que les entreprises bénéficient d'un cadre stable et prévisible, plaide-t-on à Bruxelles.
Donald Trump qui prévient aussi hier soir, il n'en a pas fini du tout avec la guerre en Iran.
Illustration cette nuit avec pour la 11e fois de suite une campagne de frappes américaines contre des cibles militaires en Iran, de quoi affaiblir la capacité de Téhéran à menacer le trafic maritime dans le détroit d'Hormuz, précise le commandement américain. Donald Trump lui a aussi réagi à la nouvelle menace là du côté de Bab el-Mandeb, où les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé un blocus contre l'Arabie Saoudite. Alors, nouveau front ou pas dans cette guerre? Écoutez la réponse du président américain.
Jusqu'ici, ça n'est pas arrivé. Ça pourrait, mais on s'occupera de ça. Si quelque chose comme ça se produit, on s'en occupera. Vous savez, on a fait ça avec les Houthis auparavant et on n'a pas entendu parler d'eux depuis quelque temps, depuis que nous avons pris les mesures qui s'imposaient à l'époque. Je pense que si une telle situation se présente, on n'aura qu'à s'en occuper.
Et visiblement, ça commence à chauffer tout doucement dans le secteur. Nathan Cocampo, il y a en tout cas plusieurs pétroliers liés à l'Arabie Saoudite qui ont préféré faire demi-tour ces dernières heures à l'approche de Bab el-Mandeb.
Oui, Léo, au moins 3 pétroliers sont repartis vers le canal de Suez après avoir chargé le pétrole saoudien au port de Yanbu. Le Xinlongyan, 2 millions de barils à son bord, ou encore le Rhodos, 700 000 barils. Il devait livrer la Chine et l'Inde. Des demi-tours qui laissent présager de nouvelles perturbations majeures pour le trafic maritime mondial dans ce détroit stratégique pour le pétrole. L'Arabie Saoudite est le premier exportateur de brut au monde. Plus de 4 millions de barils par jour ont transité par ce passage le mois dernier pour éviter Hormuz bloqué. 3% du commerce mondial transite par le détroit de Bab el-Mandeb.
Les rebelles houthis ont même directement écrit aux armateurs par mail.
Oui, pour qu'ils veillent à ce qu'aucun navire n'effectue la traversée vers ou depuis les ports saoudiens, sous peine d'être pris pour cible dans n'importe quelle zone dans leur champ d'action. Un avertissement qui n'est pour l'instant pas entendu par tous. Selon plusieurs sources, le port de Yanbu continue d'opérer pour charger du pétrole à bord de navires déjà présents. Mais ces dernières 24 heures, le coût de l'assurance contre les risques de guerre a augmenté et une société britannique de sécurité maritime conseille aux navires de reconsidérer leur transit par la mer Rouge, le risque étant élevé. 2,5 millions de barils de pétrole par jour sont en péril en mer Rouge, selon une note publiée lundi par le cabinet Rystad Energy.
Autant de risques qui font grimper un peu plus le pétrole ce matin, puisque le baril de Brent retrouve les 92$ au plus haut depuis le 11 juin.
L'actualité des entreprises, Léo, nouveau rebondissement dans la course entre géants de l'IA.
C'est Mistral qui vient de signer un contrat à plusieurs milliards de dollars avec Microsoft. Le français va lui fournir de la puissance de calcul en Europe dans le cadre d'un accord qui va aussi aider Mistral à développer ses centres de données, Eline Le Faou.
Microsoft et Mistral avaient déjà conclu il y a 2 ans un partenariat de distribution des modèles d'intelligence artificielle. Les deux groupes renforcent donc leur alliance en s'attaquant cette fois-ci aux infrastructures. Un accord gagnant-gagnant pour le champion français. Plusieurs de ces modèles d'IA seront intégrés dans les produits de Microsoft comme Copilot ou Foundry, de quoi offrir à Mistral une visibilité internationale idéal pour étendre la distribution de sa technologie, lui qui a pour objectif d'atteindre le gigawatt de puissance d'ici à 2030. Pour Microsoft, c'est l'occasion d'augmenter rapidement sa capacité de calcul sans construire de nouvelles infrastructures. Si le montant n'a pas encore été dévoilé, ce contrat s'annonce déjà comme le plus gros jamais signé par Mistral. Un coup de pouce bienvenu pour l'entreprise en pleine négociation pour une nouvelle levée de fonds. L'accord renforce un peu plus le rapprochement alors que Microsoft est déjà rentré au capital de Mistral à hauteur de 15 millions d'euros.
7h06, c'est le bal des résultats semestriels. Il y aura ce Tesla ce soir à Wall Street et après une longue traversée du désert, le constructeur semble peu à peu sortir la tête de l'eau. Ses ventes en tout cas ont retrouvé un peu de dynamisme en Europe qui avait un temps boudé la marque Justine Vassogne.
Au deuxième trimestre, Tesla a largement battu le consensus avec des ventes en hausse de 25% sur un an. 2026 sera l'année du retour à la croissance, veulent croire les marchés. Tesla est avant tout porté par l'Europe. 89 000 voitures vendues depuis janvier, soit une hausse de 77% sur un an. Le retrait d'Elon Musk de la scène politique y est pour beaucoup. La flambée du prix des carburants aussi. En Allemagne, les livraisons de Tesla ont bondi de 225% au premier semestre. En France, la Model Y est la voiture électrique la plus vendue depuis janvier, devant la R5. En Chine aussi, Tesla progresse légèrement. La marque arrive de nouveau à rivaliser avec les constructeurs locaux grâce au succès de sa modèle YL, un véhicule avec 3 rangées de sièges, une disposition dont raffolent les Chinois. Un modèle que Tesla vient de lancer aux États-Unis. Avec lui, le constructeur espère retrouver une dynamique sur ce marché qui lui résiste depuis l'arrêt des crédits d'impôt pour les voitures électriques décidé par Donald Trump.
On revient en France. Bercy veut faire baisser le prix du paracétamol.
Et le ministère reçoit ces jours-ci les laboratoires Opella et UPSA indignés par cette idée complètement contradictoire, disent-ils, avec les objectifs de souveraineté industrielle, Hélène Cornet.
Le gouvernement veut réduire de 13% le prix hors taxe pour une boîte de Doliprane, par exemple, actuellement au prix de 2,18€ en pharmacie. La rémunération des industriels passerait ainsi de 76 centimes à 66 centimes, une baisse de 10 centimes qui pourrait donc être imposée par le comité économique des produits de santé, histoire de faire réaliser quelques économies supplémentaires à l'assurance maladie, plus de 371 millions d'euros remboursés l'an dernier. Ça fait plus de 10 ans que le prix du paracétamol n'a pas bougé. Le tarif est protégé par un moratoire jusqu'au 1er janvier prochain afin d'inciter les fabricants à relocaliser en France la production des médicaments essentiels. Ils ont d'ailleurs investi dans une nouvelle usine en Isère qui doit livrer ses premières boîtes l'an prochain. Les industriels ne comprennent plus et dénoncent le flou de la politique industrielle et sanitaire en France. Ils demandent d'ailleurs tout l'inverse, une vraie revalorisation des tarifs pour tenir compte de leurs investissements.
Et dans le secteur aux États-Unis, une nouvelle bataille en justice sur le front des traitements anti-obésité. Novo Nordisk poursuit son concurrent Eli Lilly pour publicité mensongère. Le Danois estime en fait que l'Américain utilise dans une campagne des études obsolètes pour dénigrer ses produits, ce qui sème selon lui la confusion chez les consommateurs.
Merci Léo. Les marchés tout de suite, 7h08. Avec le retour d'Étienne Brack sur ce plateau, et on parle du pétrole ce matin qui grimpe, mais le marché actions, eux, ne paniquent pas.
Oui, les marchés actions restent calmes. Encore hier soir, Wall Street a progressé, on le verra dans un instant, alors que le pétrole continue de grimper. $92 pour le baril de Brent, c'est une première depuis 6 semaines. Le pétrole qui a quand même pris $20 depuis le début du mois. Les cours du gaz également continuent de grimper. Nous étions hier à 60 € pour un mégawattheure en Europe. Marché obligataire qui s'inquiète de tout cela, et surtout des effets inflationnistes à court terme, d'autant plus qu'on aura une réunion de la BCE. Certes, la BCE devrait laisser ses taux inchangés demain, mais elle pourrait bien relever ses taux à partir du mois de septembre, quand aux États-Unis, ça sera la Fed qui va prendre la parole la semaine prochaine. Et quand vous regardez le 30 ans américain, il est au-delà des 5%. On est quand même sur un niveau d'alerte, 5,15 pour le 30 ans américain, 4,64 pour le 10 ans. Quand de son côté, le yen continue de se déprécier. Là aussi, on est sur un niveau test, comme sur le 30 ans américain, avec un yen qui est à 163 pour 1 $, c'est-à-dire son plus faible niveau depuis 1986. Et sur ces niveaux, il ne faut pas exclure très clairement une intervention de la BOJ, de la Banque du Japon.
Et ce contexte rend une nouvelle fois Jamie Dimon très prudent, Étienne.
Oui, Jamie Dimon, c'est le patron de JP Morgan. C'est la plus grosse banque en termes de capitalisation boursière, banque américaine, bien sûr. Il a donné une interview de plus d'une heure à CNBC et il dit très clairement qu'il n'est pas acheteur à ces niveaux. Il parle bien sûr du S&P 500. Il ne va pas parler de son action. Il dit, quand je regarde aujourd'hui les indices, j'ai pas envie d'y aller. Idem pour le marché obligataire aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que selon lui, le marché ne prend pas en compte notamment les déficits aux États-Unis. Vous allez en parler sur la situation française, mais aux États-Unis également, il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à cela. Alors, ça n'a pas fait bouger le marché, loin de là. Hier soir, le Dow Jones a progressé de 0,7% quand le Nasdaq a gagné plus de 1% avant les très attendus résultats de Tesla et surtout de Alphabet, la maison mère de Google, ce soir après la clôture.
On va suivre évidemment sur cette antenne. Merci Étienne Brack. Le débat tout de suite.
Good morning business, face à le chiffre.
Et ce nouveau serrage de vis en vue sur le CPF, messieurs Emmanuel Le Chypre, Raphaël Legendre, le gouvernement entend conditionner chaque achat de formation à la validation par l'employeur, l'APEC ou France Travail. Est-ce que c'est la réforme de trop, Emmanuel Le Chypre ?
Oui, c'est la réforme de trop, il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol de cette obsession française pour le contrôle, l'obsession de la fraude, l'obsession des trajectoires professionnelles rectilignes. Franchement, c'est totalement absurde. Le gouvernement s'attaque absolument pas au bon problème. Il faut quand même rappeler que c'est une véritable inversion de la logique du CPF que nous propose finalement le gouvernement. On va rappeler comment le CPF est né. C'était en 2015 et l'idée, c'était justement de faire confiance à l'individu plutôt qu'à l'administration. Avant le CPF, c'était déjà l'employeur, Pôle emploi ou les organismes paritaires qui décidaient des formations. Donc on va revenir à cette logique ancienne, qui est la logique de « on n'a rien compris », qui est la logique de « on ne valorise pas le capital humain dans son ensemble et pas seulement pour ma petite trajectoire dans ma petite entreprise ». Parce que la réalité, c'est que personne ne peut prévoir ce que sera sa carrière demain, dans 5 ans. Alors, on nous fait des beaux discours sur l'intelligence artificielle, sur la réorientation, machin et tout, mais qui sait que si moi, demain, dans 5 ans, je ne serai pas caviste ou pâtissier ou maçon ? Voilà, on ne sait pas. Donc, on change davantage de métier aujourd'hui, on crée sa boîte, on cumule plusieurs activités. Bref, il faut de la liberté. Et puis, qui décide de ce qui est cohérent comme trajectoire professionnelle? Alors, ça va être un algorithme, ça va être un questionnaire, ça va être l'administration, je sais pas moi. Est-ce qu'un ingénieur qui décide d'apprendre le théâtre pour devenir un meilleur manager, c'est absurde? Est-ce qu'un artisan qui apprend l'anglais, c'est absurde? Est-ce qu'un cadre qui fait de la psychologie, c'est absurde? Non, moi, je crois pas. En plus, on nous dit on va être dans un monde dans lequel les compétences transversales vont être de plus en plus importantes. Eh ben, développons les compétences transversales. Oui, passons le permis de conduire ou le permis moto, même si c'est pas en rapport direct avec notre métier.
C'est une compétence.
Donc, si vous voulez, encore une fois, on est dans une vision qui est totalement enferrée dans le XXe siècle et on tourne le dos de façon dangereuse et presque scandaleuse au XXIe siècle.
Raphaël.
Alors, je suis en désaccord complet avec cette position socialisante d'Emmanuel Le Chypre. Ah bah oui, bien sûr, payons
moderne,
permis moto
à
absolument
moderne.
Tout le monde avec l'argent des autres. Après tout, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Donc, allons-y franchement. Et surtout, ne regardons pas les résultats catastrophiques, je le dis, du CPF. C'est une bonne idée, le CPF, à la base. Il faut se former tout au long de la vie. effectivement, sauf que là, on a ouvert une galerie marchande de tous les services possibles et imaginables. On a multiplié par, on a augmenté par 30% les prix de tous, parce que de toute façon, c'est de l'argent automatique, de l'argent public que nous n'avons pas. Je rappelle qu'on a 5% de déficit, qui est déversé comme ça, sans aucun contrôle. Il est grand temps de remettre un cadre à la formation professionnelle, effectivement. Je rappelle que le CPF, c'est quand même 2 milliards d'euros par an, alors que vous n'avez que 3% des titulaires qui l'utilisent. Puis alors, il faut voir pourquoi ils les utilisent. Vous avez seulement 17,4% des formations en 2025 qui préparent à une qualification professionnelle reconnue. Plus des trois quarts de ces formations n'ont aucune certification. 57% des inscrits seulement valident leur formation. 57% valident. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quasiment la moitié qui ne vont pas au bout. Non, j'en ai pas fini. 20% déclarent de n'avoir aucun objectif professionnel. Moi, je veux bien qu'on finance tout ça, des CAP pâtisserie pour des journalistes. Exemple vécu, on finance des CAP pâtisserie pour des journalistes.
Mais on a le droit de devenir pâtissier quand on a été journaliste.
Oui, alors, on quitte le métier, on fait une formation.
C'est de la réorientation,
c'est pas un hobby. Les permis, c'est 36%, un tiers de la formation professionnelle pour un permis.
D'accord, mais
les permis moto, Emmanuel Le Chypre,
Raphaël,
pardon, 45% de hausse des dossiers.
Qui peut nier aujourd'hui que la mobilité ou le manque de mobilité est un facteur du chômage. Donc, moi, j'entends les problèmes que Raphaël soulève et il a raison. Oui, effectivement, il y a de la fraude, il y a eu des usurpations.
Il y a de la fraude à tous les niveaux.
Il y a des mauvais, il y a des formations qui sont indignes à dire, mais est-ce que pour autant, la solution, c'est de contrôler l'accès à ces formations indigentes et luttons contre la fraude, améliorons les formations, mais ne privons pas, surtout, c'est ça le plus important, supprimons pas la liberté pour les salariés de choisir la formation qu'ils veuillent. Un, c'est prendre le risque de décourager ceux qui veulent se former, et encore une fois, c'est toujours cette idée que l'État c'est mieux que tout le monde, ce que seront les métiers de demain. Or, je rappelle, nous disent les spécialistes, que les deux tiers des métiers qui seront exercés
là, par c'est l'entreprise, hein, c'est pas l'État. Hein. Donc on paye un ticket modérateur et que l'entreprise
ait son mot à dire sur la formation. Elle a un intérêt général à ce que le niveau de capital humain global du pays s'améliore, même si c'est pas dans l'intérêt de ton entreprise directe. Ton entreprise, elle ne profite peut-être pas de la formation qu'elle va financer, elle profitera peut-être de la formation qu'une autre entreprise a financée. C'est le jeu.
Merci. La confiance n'empêche pas le contrôle.
Merci, messieurs. C'était le débat. Emmanuel Le Chypre, Raphaël Legendre, Le Plus, tout de suite.
Good Morning Business, Le Plus.
Un bac professionnel drone, formation scolaire unique en France dans un contexte géopolitique qui ne cesse de montrer le rôle de plus en plus important des drones dans la guerre moderne. À Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Bas-Rhin, des lycéens apprennent à en construire et à en piloter. C'est un reportage d'Alexandra Paget.
Ils sont 11 en bac pro ciel, cybersécurité, informatique et réseaux électroniques, option dronautique au lycée Louise Weiss de Sainte-Marie-aux-Mines. Et ils sont les seuls en France, pour le moment, à passer leur journée aux manettes d'une télécommande, à slalomer entre des plots ou sur le banc d'essai pour des tests de portance de drone.
Je mets la batterie dans le banc juste ici et ça va faire tourner les hélices du drone et grâce à ça, on va pouvoir mesurer la portance du drone.
Comprendre comment est-ce qu'on doit construire un drone, quel matériel on utilise, quel moteur on utilise, quelle batterie, etc. pour qu'on puisse par la suite le créer de A à Z nous-mêmes.
L'établissement a noué un partenariat avec l'armée. Des instructeurs militaires ont d'ailleurs donné des cours de pilotage de drones aux élèves et leur ont fait visiter des bases aériennes de la région. L'armée française va passer de 3 à 15 000 drones à la fin de l'année. Les compétences développées ici intéressent donc Pascal Fischer, le commandant du centre régional de recrutement de l'armée de l'air.
On a besoin de drones pour assurer la surveillance et la sécurité de nos sites et aussi de gens qui connaissent bien le milieu du drone pour permettre de mettre en place des contre-mesures s'il y avait des drones qui avaient des visées hostiles par rapport à nos infrastructures.
François Ginoux, le proviseur du lycée Louise Weil, s'est obligé de refuser des élèves à l'inscription tant cette nouvelle filière a le vent en poupe.
Il serait intéressant que l'éducation nationale reprenne cette expérience pour l'étendre à plusieurs lycées en France, puisque à ce jour, il n'existe aucune filière de formation en dronautique sous statut scolaire.
Et il n'y a pas que la carrière militaire, cette formation a bien d'autres débouchés et ouvre bien des portes, souligne-t-il.
Le secteur industriel, avec par exemple les entreprises qui font de la recherche de déperdition de chaleur sur leurs installations, et aussi le secteur agricole aussi.
Aujourd'hui, 12 000 pilotes de drones exercent en France, rien que dans le civil, d'après la DGAC. Et c'est sans compter les techniciens, instructeurs, ingénieurs et les militaires. Un marché de l'emploi qui va au moins doubler d'ici la fin de la décennie.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Avec Annalisa Capellini ce matin, nous revenons sur la tension entre la Chine et le Japon, montée d'un cran ces dernières heures pour un tout petit atoll au milieu de la mer des Philippines, Annalisa.
Oui, ça s'appelle Okinotorishima, c'est un micro-îlot au milieu de la mer des Philippines, entre Taïwan et Guam. Alors, il est complètement inhabité, il se trouve à plus de 1700 km de Tokyo. Pourtant, cet îlot appartient au Japon, c'est même son île la plus méridionale. Et pour le Japon, c'est un point absolument stratégique parce qu'il lui permet de revendiquer une immense zone économique exclusive tout autour. Sauf que, ces dernières heures, vous l'avez dit, la Chine a décidé de mener dans cette zone des exercices militaires, des exercices conjoints avec l'aide de la Russie. Et dans ce cadre-là, un navire de guerre chinois a mené un exercice de tir, a donc 180 km seulement des côtes japonaises, des tirs qui ont été menés avec des munitions réelles selon les médias japonais. Selon le ministère de la Défense japonais, c'est la première fois qu'un incident de ce type se produit dans une zone économique exclusive japonaise. Alors, au-delà de ce tir, c'est surtout un moyen pour les Chinois de montrer qu'ils dominent cette zone-là et donc une tentative d'intimidation en quelque sorte. Le Japon, évidemment, a donc immédiatement protesté auprès de Pékin.
Ce qui n'a pas plu à Pékin, justement.
Oui, il y a eu une réaction très très dure de la part des Chinois. Pékin, par la voix d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a répondu que Okinotori est un rocher et non pas une île et que donc ne peut pas créer de zone économique exclusive, donc que le tir mené par le navire chinois est totalement conforme au droit international. Voilà, ça pour la réponse en droit pur. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de regarder la globalité du discours de ce porte-parole, Lin Jian. Pourquoi ? Parce que ça nous dit en réalité qu'est-ce que la Chine pense de ce qui est en train de se passer ces derniers mois, ces dernières années au Japon. Eh bien, Lin Jian parle même de néo-militarisme japonais. En fait, la crainte de Pékin, c'est que le Japon exploite cet incident pour justifier son propre renforcement militaire. Ça fait des mois que la Chine a cette peur-là. Ça s'est accentué à l'automne, quand la première ministre japonaise Sanae Takaishi avait déclaré qu'une attaque chinoise contre Taïwan, on le rappelle, la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire, pourrait contraindre le Japon à mobiliser ses forces armées.
Alors, vous l'avez dit, on parle ici d'exercices militaires conjoints avec la Russie. Quel est l'intérêt de Moscou, Annalisa ?
Eh bien, ce sont des manœuvres effectivement conjointes qui ne visaient aucun pays tiers, hein, selon le discours officiel de Pékin. En réalité, participer à cette démonstration de force des Chinois permet plusieurs choses à Vladimir Poutine. Tout d'abord, de montrer qu'il y a une coopération militaire de plus en plus étroite sur le front asiatique. Ensuite, de soutenir la Chine, qui est devenue un partenaire économique indispensable face aux sanctions occidentales. Et surtout, c'est une façon de montrer que la Russie reste une puissance dans le Pacifique malgré la guerre en Ukraine. Et surtout que la Russie est capable de s'engager sur d'autres fronts, de mener aussi d'autres guerres s'il y a besoin. Pour la Chine, en revanche, c'est un moyen de compliquer la stratégie américaine, puisque maintenant, les États-Unis doivent faire face ces prochaines années à un tandem sino-russe mieux coordonné, mieux organisé, et qui pourra représenter une vraie menace dans l'Indo-Pacifique.
Merci Annalisa Capellini. Chronique, le monde qui bouge à retrouver sur notre appli et notre site tous les jours, évidemment. Vous l'avez vécu cette saison dans Good Morning Business, c'est le pitch.
Good morning business, le pitch.
Anthony Morel et Eva Jaco nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ensemble pour mettre à l'épreuve notre pitcher du jour. Bonjour Guillaume Besson.
Bonjour.
Vous avez une minute pour nous vendre Elephantiade dont vous êtes le cofondateur.
Merci beaucoup. Elephantia, c'est une start-up qui a été cofondée à Saint-Malo il y a un an. La mission d'Elephantia, c'est de permettre à chacun de raconter son histoire, raconter son vécu, écrire le livre de sa vie, l'imprimer et l'offrir à ses proches, aux gens qu'il aime, sa famille, ses amis, ses enfants, ses petits-enfants. Il y a beaucoup de familles en France qui aimeraient mieux connaître le récit de vie de leurs aînés, savoir ce qu'ils ont vécu, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Il n'y a pas de méthode facile pour écrire un livre, c'est long, c'est difficile. Nous, ce qu'on a voulu développer chez Elephantia, c'est un assistant numérique, un assistant mémoire et écriture, qui vous pose des questions de plus en plus personnalisées. On utilise l'intelligence artificielle pour poser des questions de plus en plus personnalisées, enregistrer les souvenirs, retranscrire les souvenirs et ensuite imprimer des livres en autant d'exemplaires que l'on souhaite, livrés à domicile, des biographies, des mémoires que l'on peut offrir par exemple à Noël. Au-delà de l'application numérique, parce qu'on sait qu'il y a une barrière d'accès au numérique pour les seniors, on déploie aussi un réseau d'éléphantos. Les éléphantos, ce sont nos jeunes accompagnateurs qui viennent chez les seniors, partout en France, pour recueillir leurs témoignages et les accompagner dans leur récit de vie.
Parfait. Merci beaucoup, Guillaume Besson. Anthony Morel, convaincu, là, vous avez envie de raconter votre histoire?
Je suis un peu entre, je me posais la question, je me disais, il faut quand même une certaine dose de narcissisme pour offrir le livre de sa vie à Noël à toute sa famille. Je sais pas quelle tête il ferait, en fait.
Grands-parents, notamment.
J'entends bien.
Pour de la transmission, c'est ça.
Oui, pour de la transmission. Non, non, mais blague à part. Justement, comment ça se passe? La part de l'IA et la part de l'humain, parce que vous le disiez, il y a une partie où effectivement c'est une IA qui va tout rédiger, mais il y a aussi des gens qui vont en fait chez les personnes qui sont intéressées et quoi qu'ils leur posent des questions pour ensuite alimenter l'intelligence artificielle.
C'est ça, nous on veut combiner une approche technologique et humaine parce qu'on sait qu'une application aussi intuitive soit-elle, elle est difficile d'accès pour des personnes de plus de 80 ans, plus de 90 ans. Donc nos éléphantos, c'est des étudiants, des aides à domicile qui vont chez les seniors et qui en fait utilisent l'application Elephantia avec eux. Ils les accompagnent dans leur parcours de récit de vie et donc ils leur posent les questions générées par l'application, ils rebondissent, ils enregistrent les réponses et en fait, ils ont juste besoin d'être empathique, bienveillant, curieux. C'est un moment de transmission intergénérationnelle et ensuite, le livre est produit.
Alors, ça prend combien de temps d'écrire son livre puisque vous avez une formule d'abonnement aussi?
Oui.
Comment ça fonctionne et ça coûte combien?
Alors, ça coûte à partir de 10 euros par mois. Il y a aussi une version gratuite de l'application qui permet de créer son premier chapitre pour tester et se familiariser. Entre 10 et 20 heures d'utilisation d'Elephantia, donc de récits, de témoignages oraux, on peut avoir une première ébauche de son texte qui peut faire entre 100 et 150 pages.
Ah, faut parler pendant 10 à 20 heures?
Il faut parler pendant 8, 10, 12 heures en fonction de la personne. Après, c'est le récit d'une vie, hein. C'est quand même quelque chose de volumineux. Et ensuite, on peut retravailler le texte autant de temps qu'on le souhaite. Il y a des personnes qui retravaillent 3 mois, 6 mois, 1 an, d'autres personnes qui impriment en une nuit. On a eu des personnes qui ont produit leur livre en une nuit.
Alors c'est l'IA aussi qui retravaille. Est-ce que vos éléphantos, ils repassent derrière quand même pour contrôler?
Les éléphantos corrigent les noms propres, ils améliorent la fluidité du texte et ensuite on fournit un manuscrit à l'utilisateur qu'il peut retravailler et modifier jusqu'à en être satisfait et l'imprimer lui-même.
Une question sur le modèle économique, parce qu'autant votre logiciel, je comprends comment ça marche, ça a un coût j'imagine assez bas. En revanche, demander à des personnes de repasser derrière et tout ça pour peut-être peaufiner un peu le produit final, là ça coûte de l'argent, à moins que ce soit des bénéfices.
Non, ce sont des jeunes qu'on rémunère, c'est des petits boulots rémunérés. Ça coûte de l'argent, oui, mais d'un autre côté, ce ne sont pas des personnes qui vont relire, ce sont majoritairement des accompagnateurs qui viennent recueillir le témoignage et le récit. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a beaucoup de seniors qui se sentent isolés en France, les petits frères des pauvres alertent chaque année sur le sujet. Il y a aussi des statistiques sur la solitude des jeunes. Nous, on veut créer du lien social intergénérationnel en créant des binômes entre des jeunes et des seniors et transmettre des récits d'une époque et d'une vie.
Et on se retrouve avec un bouquin de quelle taille? Enfin,
ça peut faire jusqu'à 500 pages, on a des personnes.
Mais c'est au choix, c'est la personne, c'est en fonction de la richesse de la vie ou est-ce que c'est paramétrable par la personne?
C'est en fonction de la richesse de la vie et de la nature de ce que la personne veut raconter. Il n'y a pas de parcours préétabli. Chacun raconte ce qu'il veut. La première question qui vous est posée, c'est où êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Qui étaient les membres de votre famille? Mais ensuite, en fonction de ce que vous racontez, ça va s'adapter à votre récit.
Et après, c'est quoi? Il y a une qualité littéraire au texte ou c'est quelque chose qui est finalement assez standardisé dans la manière d'écrire?
On peut choisir un style et un ton. On peut soit choisir que ce soit un petit peu romancé, magnifié, soit que ce soit très fidèle et authentique et proche de notre ton. Et puis ensuite, on peut retravailler ce texte et l'améliorer soi-même jusqu'à en être satisfait.
Eh ben, merci beaucoup pour ce pitch, Guillaume Besson, cofondateur d'Elephantia.
Dans un instant, Good Morning Business continue le journal de 7h30 et Airbus qui passe à l'offensive sur ses objectifs et attend 75% de hausse de son bénéfice opérationnel dans 3 ans. On va en parler avec Étienne Braque. Je recevrai aussi le directeur général de la Caisse centrale de réassurance. À tout de suite.
Good Morning Business, le journal.
7h30, les titres, Léo.
Airbus passe à l'offensive sur ses objectifs et atteint 75% de hausse sur son bénéfice opérationnel dans 3 ans. On voit ça avec Étienne Brack dès le début de ce journal. Le gouvernement du pouvoir d'achat passe à l'action au Royaume-Uni, mais la rigueur budgétaire peut-elle tenir? On fera le point à Londres dans le journal. Et puis le premier remaniement de Jean Castex à la SNCF. Airbus se montre donc très optimiste à moyen terme. L'avionneur a tenu hier sa journée investisseur et il table sur un résultat opérationnel ajusté de 12 à 13 milliards d'euros en 2029, c'est-à-dire 5 à 6 milliards de plus que l'an dernier. Étienne Brack, une nouvelle qui devrait être bien accueillie sur le marché à 9h.
En tout cas, le titre était en hausse de plus de 3% hier soir en après-bourse, car en plus de ses objectifs, vous avez un groupe qui vous dit on compte racheter jusqu'à 5 milliards d'euros de nos propres actions d'ici à 2029. Donc forcément, ça va créer de la demande à court terme, et ça devrait porter ce titre. Ces annonces ont été faites hier soir au Royaume-Uni, à Farnborough, où vous avez un salon aéronautique qui se tient. Guillaume Faury s'est montré très optimiste, hein, encore et toujours, notamment sur la partie long courrier, hein, où Airbus constate qu'il continue de gagner des parts de marché avec son A350 face à Boeing et à son 777, hein, notamment le 777X de Boeing. Un carnet de commandes qui déborde encore et toujours, avec aujourd'hui plus de 9200 avions à livrer, et le tout, bien sûr, comme ces dernières années, ça sera de le faire en temps et en heure. C'est toujours la difficulté pour Airbus de tenir son carnet de commandes. Vous l'aurez remarqué, le groupe ne revoit pas à la hausse ses objectifs pour cette année. Alors, il le fera peut-être jeudi 30 juillet. C'est jeudi 30 juillet que Airbus va publier ses résultats semestriels. Entre les lignes, ça montre que vous avez un groupe qui est prudent à court terme et optimiste à moyen terme. Alors, la bourse devrait certes le saluer, mais quand vous regardez dans les détails, c'est s'il n'y a pas de nouveaux droits de douane, s'il n'y a pas de nouveaux problèmes d'approvisionnement. Bref, autant d'éléments qui ont perturbé Airbus ces dernières années, ainsi que son titre, qui est néanmoins proche d'un record historique, puisqu'on est désormais à 10% du plus haut touché début janvier. Nous étions hier à 194 € pour une action Airbus.
Merci Étienne Brack. Alors sur la 350, en voilà 9 de plus dans le carnet de commandes. C'est Philippine Airlines, cette fois, qui vient de signer avec Airbus, ce qui double là ses commandes totales sur ce modèle. Et en parallèle, toujours à Farnborough, ça chauffe sérieusement entre Boeing et la compagnie Emirates. Son emblématique patron Tim Clark dit tout simplement qu'il ne veut pas des derniers appareils qu'il a reçus du constructeur américain Noah Domain.
Heinz pourrait être intéressé pour en faire des boîtes de haricots. Au salon aéronautique de Farnborough, Tim Clark, le président d'Emirates, n'a pas mâché ses mots contre Boeing. Derrière cette sortie, un problème concret, les retards de livraison du Boeing 777X, un appareil vendu près de 440 millions de dollars l'unité. Les 10 premiers exemplaires devaient arriver en 2020, mais viennent finalement d'être livrés avec près de 6 ans de retard et sont déjà dépassés. Pour Tim Clark, ces avions doivent en effet être tellement modifiés pour être à la pointe de la technologie qu'ils ne répondent plus aux besoins opérationnels de la compagnie. Une raison qui le pousse à affirmer qu'il ne prendra pas ce lot. Pensez tout. L'avionneur se défend. Boeing explique avoir fait évoluer la conception de l'appareil tout au long de son développement afin d'offrir le meilleur produit possible à ses clients. Car au-delà de ses retards, le constructeur américain mise beaucoup sur le 777X pour revenir dans la course face à l'Airbus A350 sur le marché des vols long courriers.
Andy Burnham annonce de son côté son premier coup de pouce fiscal, Léo.
Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni qui acte une baisse de la TVA sur les factures d'électricité des ménages. Première mesure choc pour concrétiser sa promesse d'un gouvernement du pouvoir d'achat. Mais alors derrière ça, des questions se posent sur la rigueur budgétaire qu'il entend aussi tenir. Tous les détails à Londres avec Laura Calmus pour BFM Business.
Oui, Andy Burnham veut montrer qu'il agit vite. Sa première mesure, c'est la suppression pendant 6 mois de la TVA de 5% sur les factures britanniques. Pour un ménage moyen, cela représente environ 53 € d'économie. Mais cette annonce pose déjà une question. Qui va payer ? La mesure coûtera près d'€1 milliard à l'État britannique cette année et le gouvernement assure qu'elle sera financée grâce à l'abandon du projet de carte d'identité numérique. Sauf que plusieurs économistes ainsi que d'organismes indépendants chargés des finances publiques rappellent que ce projet n'avait lui-même pas de financement clairement identifié. Mais ce n'est qu'un début. Andy Burnham promet déjà d'autres mesures contre la vie chère dans les prochains jours. Mais avec une dette qui représente 95% du PIB, il dispose de très peu de marge de manœuvre. Le message envoyé hier à ses ministres était donc très clair. Chaque nouvelle dépense devra être financée. Autrement dit, pour pouvoir dépenser davantage d'un côté, il faudra probablement couper ailleurs.
Merci Laura Calmus à Londres pour BFM Business. Dans le même temps, en France, il est 7h35 et c'est la ministre de la Transition écologique qui claque la porte, Monique Barbu, qui présentera sa démission ce matin à Emmanuel Macron avant le Conseil des ministres en réaction à l'adoption définitive par le Parlement de la mesure qui réautorise des pesticides, mesure à laquelle elle s'opposait. Alors Sébastien Lecornu lui répond ce matin dans Paris Match que Monique Barbu a encore sa confiance, mais qu'il faut trouver l'équilibre entre conviction personnelle et compromis. Le Premier ministre, qui se dit aussi dans cette interview pas très optimiste sur le respect des objectifs de déficit à la fois cette année, mais aussi l'an prochain.
On en parlera avec Raphaël Legendre dans son édito dans 5 minutes. Et puis cet important remaniement aussi à la SNCF, Léo.
8 mois après son arrivée à la tête du groupe, Jean Castex a décidé de remercier Christophe Fanichet, le PDG d'SNCF Voyageurs et aussi l'architecte de l'ouverture à la concurrence. Alors il sera remplacé par un binôme, mais c'est là un virage stratégique pour le groupe, Caroline Morisseau.
Jean Castex reprend les rênes. Christophe Fanichet, considéré jusqu'ici comme l'un des hommes forts du groupe, est évincé. C'est lui qui pilotait l'ouverture du groupe à la concurrence et la stratégie à l'international. En Espagne avec Ouigo, en Italie avec un lancement prévu l'an prochain. Son poste à la tête de SNCF Voyageurs a été scindé en deux. L'actuel directeur des finances et de la stratégie du groupe devient président. Le responsable des TER récupère la direction générale. Tous deux seront chargés de piloter la nouvelle stratégie que veut impulser Jean Castex. Il avait déjà gelé la réforme Destination 2030, le plan de transformation mis en place par Christophe Fanichet, qui prévoyait la création de nombreuses filiales en région afin d'accompagner l'ouverture à la concurrence. Il était très critiqué par les syndicats, qui voyaient une forme de démantèlement de la SNCF. L'ancien Premier ministre semble déterminé à remettre à plat toute la stratégie et piloter lui-même l'ouverture à la concurrence avec, dit-il, trois mots d'ordre, plus de décentralisation, de performance, mais aussi d'unité au sein du groupe.
Et puis on a appris ces dernières heures la disparition de Jean-Marc Sylvestre, emblématique journaliste et éditorialiste économique, le visage même de l'économie sur TF1 dans les années 90. Il avait aussi présenté et participé à plusieurs émissions sur BFM Business ces dernières années. Il est donc décédé lundi à 79 ans.
Merci Léo, on vous retrouve dans le journal de 8h, 7h37, les marchés. Étienne Braque, vous nous parlez de la société chinoise Zhongli InnoLight qui prévoit de lever plus de 7 milliards de dollars à la bourse de Hong Kong.
Oui, ça va se passer à Hong Kong. Ces dernières heures, vous avez beaucoup parlé sur ce plateau de la nouvelle intelligence artificielle chinoise Moonshot. Et donc désormais, il faudra également retenir cette société Zhongli InnoLight. Alors, ce n'est pas un moteur d'intelligence artificielle. Eux, ils fabriquent des composants optiques pour les centres de données, pour les data centers. Et ça tombe bien parce que vous avez des acteurs chinois qui ont aujourd'hui une envie, mais également une envie politique de la part de Pékin, de se passer des technologies européennes et des technologies américaines. Et donc là, au final, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez tout un tas d'entreprises qui sont en train de lever des capitaux afin de faire en sorte de construire une solution souveraine. Alors par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis et surtout SpaceX, souvenez-vous, le mois dernier, c'est vrai que 7 milliards de dollars en bourse, ça peut paraître pas grand-chose, mais mine de rien, ces prochaines semaines, si cette introduction se réalise comme il se doit à la bourse de Hong Kong, ça sera la plus grosse introduction depuis 2019 et l'introduction en bourse d'Alibaba. Donc c'est quand même loin d'être neutre cette introduction en bourse de Zhongli InnoLight. À un moment qui sera également crucial ces prochaines heures avec les résultats des GAFAM. Ça va commencer dès ce soir avec Alphabet qui sera sûrement challengé par rapport à ses concurrents chinois. Les résultats d'Alphabet qui seront publiés ce soir, qui d'après le consensus seront juste exceptionnels. On sera bien au-delà des 10% de croissance puisque vous avez quand même un consensus qui s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de plus de 21%, un résultat net en hausse de plus de 24% par rapport à l'an passé, entre 35 et 37 milliards de dollars. C'est la fourchette attendue pour le résultat net. Mais en dehors de ces résultats, le marché compte surtout interroger, voir un petit peu dans le détail la communication de Alphabet sur les investissements, hein, puisque pour rappel, Google prévoit d'investir entre 180 et 190 milliards de dollars, notamment dans l'IA. Où est-ce que le groupe en est aujourd'hui dans ce développement? Et surtout, est-ce qu'ils arrivent encore à se fournir par rapport au budget qui avait été prévu en début d'année, sachant que nous sommes face à une inflation qui est juste extraordinaire sur l'ensemble de cette chaîne de valeur?
Merci beaucoup, Étienne Brack. On vous retrouve tout à l'heure. L'édito de Raphaël Legendre.
Good morning business. L'édito de Legendre.
Et donc, on l'a évoqué dans le journal. Le Premier ministre Sébastien Lecornu donne ce matin une longue interview à Paris Match où il parle notamment du prochain budget. Raphaël, ça vous a pas totalement convaincu, on peut le dire?
Non, mais il faut aller la lire, cette interview. Alors, peut-être pas tant sur le fond que sur la forme. C'est un monument d'hypocrisie budgétaire. Cette longue, très longue interview aux Parisiens où le Premier ministre met longtemps à ne pas répondre, à ne rien dire, en tout cas rien d'intéressant tant il enfile les poncifs les uns après les autres. Les poncifs budgétaires notamment, tenez-vous bien, le budget de l'automne sera une véritable rupture dans la structure de nos dépenses, mais bien sûr, il faudra, je cite, distinguer beaucoup plus clairement les dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement. Eureka, comme si on ne le faisait pas déjà. Promis, il n'y aura pas de coupe budgétaire aveugle. Bien sûr, il faudra un budget de choix à 6 mois de la présidentielle. On le croit, le Premier ministre. Je rappelle que les derniers choix de Sébastien Lecornu en matière budgétaire, c'est d'avoir tout lâché au Parti Socialiste dans le dernier budget pour se maintenir en place à Matignon. Et puis, pas d'impôts. Bien sûr, bah non, pas d'impôts. Les députés centristes, bah oui, Jean-Paul Mattei et Charles de Courson viennent de publier un rapport qui fourmille d'idées pour taxer les riches et qui sera un prélude évidemment à un festival de créativité fiscale durant le prochain PLF. Mais promis, il n'y aura pas de hausse d'impôts, nous dit le Premier ministre. Bah c'est vrai, il suffira de prolonger les surtaxes prétendument exceptionnelles qu'on a déjà fait passer ces deux dernières années, la surtaxe d'impôt sur les sociétés ou la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, bien sûr. Dans la même phrase, le Premier ministre arrive à nous expliquer qu'il choisira la stabilité fiscale. Je rappelle que ça fait 2 ans qu'on ne réduit le déficit que grâce aux hausses d'impôts, quand même, dans ce pays. Oui. Mais que ça n'empêchera pas, ajoute le Premier ministre dans la même phrase, d'interroger l'efficacité de certaines niches fiscales. Supprimer des niches fiscales, on le rappelle, c'est augmenter l'impôt. Donc, de la stabilité fiscale sans hausse d'impôts, mais quand même, on augmentera un peu les impôts. Quant aux promesses d'économie structurelle, il n'en a jamais fait, c'est simple. Et souvent, comme on dit sur les marchés, les performances passées, comme on dit, à l'inverse de ce qu'on dit sur les marchés, les performances passées, là, laissent bien présager des performances futures. Et puis, les promesses d'économie à 6 mois d'une élection présidentielle n'engagent que ceux qui les croient.
Il parle des dépenses de santé et des dépenses sociales.
Oui, alors il annonce une baisse de remboursement des médicaments à faible bénéfice thérapeutique et plus de rigueur sur ceux qui achètent plus de 50 boîtes de médicaments et vont plus de 25 fois chez le médecin dans l'année. Bon, je ne sais pas ce qui se passe pour les personnes les plus âgées, hein, qui ont besoin de voir des médecins, si on va les limiter ou pas. Il annonce aussi un bonus-malus budgétaire pour les ministères qui demandent des postes supplémentaires alors que l'IA pourrait remplacer ces postes. On ne voit pas trop de quoi il s'agit, mais enfin, surtout, il n'y a pas un mot sur un sujet important que sont les retraites. Pas un mot sur les retraites alors qu'il promet des économies. Je vous le dis, tout ministre qui vous parlera d'économie budgétaire sans vous parler des retraites est un menteur.
Et il parle de ses ambitions pour 2027, Raphaël ?
Oui, alors il dit qu'il ne se mêlera pas de cette élection quand on l'interroge sur le sujet. Alors je vous le disais en début de chronique, c'est un monument d'hypocrisie budgétaire, cette interview, peut-être politique aussi. Y penser toujours, en parler jamais. En politique, la maxime est bien connue. Mais c'est peut-être ça le secret des carrières qui durent en politique. Je rappelle que Sébastien Lecornu aura été le seul ministre à faire 10 années sans discontinuer aux côtés d'Emmanuel Macron.
Merci Raphaël Legendre. Dans un instant, on va parler d'assurance, on va parler de catastrophes naturelles avec Édouard Vieillefond, directeur général de la Caisse centrale de réassurance, qui est dans le grand entretien. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
C'est Édouard Vieillefond qui est avec moi dans le grand entretien, directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec moi dans la matinale de l'économie. Vous êtes réassureur public chargé du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Vous conseillez aussi les pouvoirs publics en matière de prévention et d'adaptation. Évidemment, on a cette situation cet été, 3 canicules en 2 mois, la sécheresse qui suit, les inondations qui arrivent après au mois de septembre, même si on ne les a pas encore vécues, mais ça devient cyclique. Des conséquences sur les humains, sur l'agriculture, sur les bâtiments. Ensuite, est-ce qu'on a déjà peut-être une estimation de ce que tout ça va coûter rien que sur l'année 2026 ?
Bien, déjà, la priorité, c'est évidemment l'humain, c'est la vie. Et quand on voit ce qui s'est passé, notamment à Mérignac hier, et qui est absolument dramatique, c'est la priorité absolue. Après, c'est vrai que le réchauffement climatique, les canicules, ça a un effet sur beaucoup de choses. Ça a un effet sur les hommes, sur les animaux, sur l'agriculture et sur les biens. Alors CCR, la Caisse centrale de réassurance, s'occupe des biens. Nous regardons des choses qui sont en lien avec les dommages. Alors les dommages aux maisons, les dommages aux appartements, les dommages aux biens professionnels. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais par exemple dans notre domaine, qui vise principalement la sécheresse au sens, vous savez, les fissures des maisons, le fameux retrait gonflement des argiles, ben on pense que ça va être une mauvaise année qui risque de ressembler à 2022 et qui se comptera en milliards d'euros et pas en centaines de millions d'euros. Donc c'est une année très importante qui aura des conséquences matérielles, des conséquences sur l'agriculture, des conséquences sur la vie humaine, mais aussi des conséquences dans un deuxième temps sur les biens dont nous avons la charge en quelque sorte en matière de réassurance publique.
Les dommages assurés liés aux catastrophes naturelles pourraient croître de l'ordre de 60% d'ici 2050. Là, on est finalement dans des actions tous les ans et en matière d'assurance, un petit peu de réaction. Comment passer à un système, et comme dans la santé, on en a besoin, à un système de prévention?
Alors, CCR s'occupe principalement du régime catastrophe naturelle de 1982, qui marche très bien d'ailleurs. Donc la chance qu'on a en France, et c'est souvent envié dans d'autres pays, c'est qu'on a un régime d'indemnisation d'assurance qui marche. Et il faut insister là-dessus parce que ce n'est vraiment pas le cas partout, c'est pas le cas en Allemagne, etc. En revanche, c'est vrai qu'en France, mais dans tous les domaines, on est souvent moins bon en prévention que dans l'action. On le voit d'ailleurs dans votre émission juste avant, les pompiers font un travail extraordinaire, la sécurité civile également, quand il faut passer à l'action. Mais en amont, on est souvent beaucoup moins bon en France, de façon générale. Alors, oui, les dommages liés aux catastrophes naturelles, aux risques naturels, vont augmenter. Oui. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 milliards d'euros par an de dommages sur les très grands risques. Les inondations, le retrait gonflement des argiles dont je viens de parler, les cyclones, les tremblements de terre, c'était 1 milliard d'euros en 1982, lors de la création du régime. Donc déjà, c'est x2. Et on pense qu'effectivement, à un horizon 2050, on va en avoir pour environ 60% de plus, donc 3 milliards, 3 milliards 2, peut-être 3 milliards 5, ça dépend un peu des hypothèses et de la tendance du réchauffement climatique. Donc ça veut dire que ça va coûter un peu plus cher, c'est clair que les primes vont un petit peu augmenter, que la fameuse surprime catnat va continuer d'augmenter un petit peu, pas beaucoup, parce qu'elle a augmenté nécessairement fortement à partir de l'an dernier, en 2025.
Oui, de 12 à 20%.
Voilà, mais ce qui va tuer le coût en fait, ce qui va permettre que le coût n'augmente pas, voire soit flat, bah, c'est tout simplement la prévention. Et on sait aujourd'hui que quand on met 1 euro dans la prévention aujourd'hui, typiquement quand on fait des ouvrages hydrauliques, quand on fait des digues, des zones de débordement, quand on aménage au niveau intercommunal tel ou tel village ou tel bourg de bonne façon, bah l'efficacité est extraordinaire. C'est des ratios de 1 pour 3, de 1 pour 4, etc. Donc tout euro mis dans la prévention permet d'économiser beaucoup de choses, d'éviter des dommages, d'éviter des sinistres pour les gens également, et donc de payer beaucoup moins cher à la fin.
Pour le moment, la majorité de nos habitations sont assurées. On estime seulement à 1000 communes qui sont dans une situation un peu plus embêtante sur les 35 000 communes existantes. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être dans les prochaines années un régime qui va finalement fixer ses prix et ses remboursements en fonction des efforts qui sont faits par les collectivités, par les ménages, par les entreprises sur les territoires?
Alors, sur la référence à ce petit millier de communes qui provient de notre rapport, oui, de l'Observatoire que j'ai remis au ministre de la Transition écologique et des finances, donc le 15 juin dernier, en fait, on parle d'un petit millier de communes sur 35 000 quasiment, donc ça fait moins de 3%, où effectivement il y a des tensions assurantielles. Alors, ce n'est pas l'assurabilité ou l'assurance des communes elles-mêmes, c'est l'assurance des maisons qu'on a analysées. Donc, 1 000 sur 35 000, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on peut s'assurer à peu près partout en France ou presque partout à la maille communale. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle. Mais dans ce millier de communes, il y a quand même des signes de tension. C'est-à-dire qu'on a une carte qui est disponible sur notre site, sur le site de CCR, et quand on clique sur une commune, on voit de quelle couleur elle est. Il y en a un petit millier qui est un petit peu plus tendu, c'est-à-dire avec moins d'assureurs que la normale. Alors, ça va, mais il faut surveiller. Et donc, un, il faut surveiller, et puis deux, il faut prendre des mesures. Et là, je réponds à votre question directement. Oui, en France, le sujet que nous avons, c'est que dans le régime CatNat, nous avons un dispositif dans la loi qui explique comment l'indemnisation doit fonctionner, comment CCR doit fonctionner, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur la prévention à faire. Donc, de quoi avons-nous besoin? D'abord, on a besoin de cartes ou d'une carte globale pour dire ce qu'est le risque. Et ça, ça ne peut être que l'État qui le dit. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont accumulées, mais il faut les synthétiser. C'est prévu dans le plan national d'adaptation au changement climatique, qui a été publié il y a 2 ans. Et ensuite, quand vous connaissez le risque, quand vous connaissez la carte, eh bien, il faut dire quelles sont les obligations de prévention à tel ou tel endroit. Et il faut toujours les deux. C'est-à-dire qu'il faut des obligations, des incitations à la prévention pour les communes, pour les particuliers, pour les entreprises. Mais en échange, évidemment, il faut aider, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent public pour contribuer à la réduction de cette prévention. On le fait déjà pour la prévention collective à travers un fonds qui est très connu, c'est le fameux fonds Barnier qui a été créé en 1995 dans la loi éponyme, la loi Barnier. Et donc, on est très très bon en France, en fait, pour, et c'est peu connu, pour la prévention collective. C'est-à-dire vraiment la prévention, les grands barrages, etc., etc. En revanche, et tous les ouvrages hydrauliques, en revanche, sur la prévention individuelle, où il faut aller chercher, entre guillemets, la prévention à la maille de la maison des particuliers, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut avoir accès à chaque particulier, à chaque propriétaire ou occupant de maison. Et donc, c'est un problème de distribution. Et c'est là que nous avons un très gros progrès à faire dans les mois qui viennent.
Alors justement, comment peut évoluer ce rapport plutôt que ce particulier qui attend la catastrophe pour finalement être indemnisé, qu'il soit plus proactif? À quoi réellement va ressembler ce rapport dans les 5-10 ans? À quoi va ressembler l'assurance dans 10 ans finalement? Vers quoi on va? Sur quoi vous travaillez?
En fait, le sujet principal, c'est la prévention, on vient de se le dire. Et donc, il faut lier les deux. De toute façon, quand on a de très grands risques, qu'ils soient technologiques comme le cyber, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient naturels, un très grand risque sans prévention, on n'arrive plus à l'assurer à la fin. Donc aujourd'hui, le point de départ est très bon, puisqu'on arrive à financer un régime CatNat finalement avec peu d'argent, avec un prélèvement, une surprime qui est assez basse, mais on sait que la courbe va être croissante dans les années qui viennent. Donc ce qui compte, c'est pour le risque principal aujourd'hui, qui est le plus fort en France, qui est ce fameux retrait gonflement des argiles. C'est 12 millions de maisons, 60% des maisons françaises. Et si on fait, par exemple, une réparation moyenne à 30 000 ou 40 000 euros, vous voyez que c'est un dossier à 500 milliards d'euros dans les dizaines d'années, dans les 50 ou les 100 années qui arrivent. Donc, pour gérer ça, ça ne se gère que par la prévention. Et donc, il faut entrer dans un partenariat public-privé entre l'État, les assureurs, la CCR, etc., de telle façon qu'il y ait cet alignement d'intérêts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des financements publics, qu'il faut des financements privés, mais que sur la distribution de cette aide, qui existe déjà, mais qui aujourd'hui n'est que collective et qui n'arrive pas à atteindre la maison individuelle, pour le RGA en métropole et aussi pour les cyclones dans les territoires ultramarins, il faut cette distribution. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un particulier doit pouvoir appeler quelqu'un, par exemple son assureur, en disant « Est-ce que je suis éligible? Est-ce que je peux avoir quelque chose ?» Et même, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Parce que la démarche administrative est évidemment extrêmement complexe et lourde. C'est ça l'objectif.
Peut-être que ce qu'on a vu ces dernières semaines, effectivement, dans nos médias, va convaincre les gens de faire appel plus tôt, finalement, dans le processus à ces dispositifs. Merci beaucoup, Édouard Vieillefond, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Dans un instant, on va reparler de Donald Trump et cette nouvelle offensive droit de douane. Le Brésil est touché, le Canada aussi, l'Europe, évidemment. On en parle dans un instant. À tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. C'est reparti pour l'offensive droit de douane. Donald Trump dégaine à nouveau cette arme contre le Brésil, le Canada et l'Europe. Il accuse cette fois l'Union européenne de ne pas lutter assez efficacement contre le travail forcé. Explication à venir. Et puis nouveau rebondissement dans la course entre géants de l'IA. Le français Mistral vient de signer un contrat faramineux avec Microsoft pour lui fournir de la puissance de calcul en Europe. On va voir ça dans un instant. Les autres titres, Léo.
Donald Trump met en garde les Houthis contre tout blocus en mer Rouge. Eux ont écrit aux armateurs pour leur dire d'éviter ce secteur. On fera le point dans le journal. Les semestriels de Tesla à suivre ce soir à Wall Street après de bons chiffres en Europe sur le début d'année. Et puis Bercy veut faire baisser le prix du paracétamol.
Dans la prochaine heure, on verra que la Josamycine, plus connue sous le nom de Josacine, est de retour sur le territoire français. C'est le laboratoire Teradial qui l'a racheté à une entreprise japonaise. Elle va désormais être produite en France pour un retour sur le marché dans un an environ. On va en parler avec Frédéric Lepotier à 8h15. Et puis Vanguard fait le pari d'intéresser les Français aux ETF avec des frais bas. Le géant américain débarque en France. Ouda Enebati nous expliquera sa feuille de route. Ce sera à 8h20 dans Parole de Patron. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Et Donald Trump relance la valse des droits de douane, Léo.
À quelques heures maintenant de l'expiration des 10% de surtaxe temporaire, celle qui avait pris le relais des droits de douane supprimés par la Cour suprême. Alors maintenant, il y a une annonce presque tous les soirs à Washington. 25% sur une série de produits brésiliens, ça entre en vigueur dès ce matin. Puis 50% sur le Canada dans un mois. Et cette nuit, Donald Trump ajoute 100% sur tous les médicaments génériques qui entrent aux États-Unis, avec une collecte qui démarrera dans 2 ans, le 1er août 2028, mais tout ça n'est que le début puisque l'administration Trump prévient qu'une soixantaine d'économies au total sera ciblée prochainement et l'Union européenne n'y échappera pas, Caroline Morisseau.
La Commission européenne se prépare un nouveau bras de fer avec les États-Unis. Après le revers infligé par la Cour suprême, Donald Trump a en effet trouvé un nouvel argument pour rétablir des surtaxes. Il accuse l'Union européenne, comme beaucoup d'autres partenaires commerciaux, de ne pas lutter assez efficacement contre le travail forcé et menace donc à ce titre d'instaurer une nouvelle surtaxe de 10% sur tous les produits européens qui bénéficient, selon lui, du travail forcé. Ces accusations sont fermement contestées par l'Europe. C'est totalement absurde. On a la législation la plus stricte au monde, rétorque un haut responsable. Pour autant, la Commission européenne se prépare à négocier. Elle se dit prête à accepter ces nouvelles taxes liées au travail forcé, à une condition: que Washington respecte son engagement, plafonner les droits de douane sur les exportations européennes à 15%, qu'importe l'argument invoqué, tant que ce qui a été convenu est respecté et que les entreprises bénéficient d'un cadre stable et prévisible, plaide-t-on à Bruxelles.
Donald Trump qui prévient aussi hier soir, Léo, il n'en a pas du tout fini avec la guerre en Iran.
Illustration dès cette nuit avec pour la 11e fois de suite une campagne de frappe américaine contre des cibles militaires en Iran, de quoi affaiblir la capacité de Téhéran à menacer le trafic commercial dans le détroit d'Hormuz, précise le commandement américain. Donald Trump qui lui a aussi réagi à la nouvelle menace là du côté de Bab el-Mandeb où les rebelles houthis du Yémen soutenus par l'Iran ont annoncé un blocus contre l'Arabie Saoudite. Alors nouveau front ou pas dans cette guerre, la réponse du président américain.
Jusqu'ici, ça n'est pas arrivé. Ça pourrait, mais on s'occupera de ça. Si quelque chose comme ça se produit, on s'en occupera. Vous savez, on a fait ça avec les outils auparavant et on n'a pas entendu parler d'eux depuis quelque temps, depuis que nous avons pris les mesures qui s'imposaient à l'époque. Je pense que si une telle situation se présente, on n'aura qu'à s'en occuper.
Et visiblement, ça commence à chauffer tout doucement dans ce secteur. Nathan Cocampo, il y a plusieurs pétroliers liés à l'Arabie Saoudite qui ont préféré faire demi-tour à l'approche de Bab el-Mandeb.
Oui, au moins 3 pétroliers sont repartis vers le canal de Suez après avoir chargé le pétrole saoudien au port de Yanbu. Le Xinlongyan, 2 millions de barils à son bord, ou encore le Rhodos, 700 000 barils. Il devait livrer la Chine et l'Inde. Des demi-tours qui laissent présager de nouvelles perturbations majeures pour le trafic maritime mondial dans ce détroit stratégique pour le pétrole. L'Arabie Saoudite, c'est le premier exportateur de brut au monde. Plus de 4 millions de barils par jour ont transité par ce passage le mois dernier pour éviter Hormuz qui est bloqué. 3% du commerce mondial transite par le détroit de Bab el-Mandeb.
Les rebelles houthis ont même écrit directement par mail aux armateurs, Nathan.
Oui, pour qu'ils veillent à ce qu'aucun navire n'effectue la traversée vers ou depuis les ports saoudiens, sous peine d'être pris pour cible dans n'importe quelle zone dans leur champ d'action. Un avertissement qui n'est pour l'instant l'instant pas entendu par tous. Selon plusieurs sources, le port de Yanbu continue d'opérer pour charger du pétrole à bord des navires déjà présents. Mais ces dernières 24 heures, le coût de l'assurance contre les risques de guerre a augmenté et une société britannique de sécurité maritime conseille aux navires de reconsidérer leur transit par la mer Rouge, le risque étant élevé. 2,5 millions de barils de pétrole par jour sont en péril en mer Rouge, selon une note publiée lundi par le cabinet Rystad Energy.
Merci Nathan. Et alors tous ces risques font grimper un peu plus le pétrole. Ce matin, le baril de Brent est revenu autour des $92 au plus haut depuis la mi-juin.
L'actualité des entreprises, Léo. Nouveau rebondissement dans la course entre les géants de l'IA.
Avec Mistral qui vient de signer un contrat à plusieurs milliards de dollars avec le géant Microsoft. Et le français va lui fournir de la puissance de calcul sur le continent européen dans le cadre d'un accord qui va aussi aider Mistral à développer ses centres de données, Éline Lefaou.
Microsoft et Mistral avaient déjà conclu il y a 2 ans un partenariat de distribution des modèles d'intelligence artificielle. Les deux groupes renforcent donc leur alliance en s'attaquant cette fois-ci aux infrastructures. Un accord gagnant-gagnant pour le champion français. Plusieurs de ces modèles d'IA seront intégrés dans les produits de Microsoft comme Copilot ou Foundry. De quoi offrir à Mistral une visibilité internationale idéal pour étendre la distribution de sa technologie, lui qui a pour objectif d'atteindre le gigawatt de puissance d'ici à 2030. Pour Microsoft, c'est l'occasion d'augmenter rapidement sa capacité de calcul sans construire de nouvelles infrastructures. Si le montant n'a pas encore été dévoilé, ce contrat s'annonce déjà comme le plus gros jamais signé par Mistral. Un coup de pouce bienvenu pour l'entreprise en pleine négociation pour une nouvelle levée de fonds. L'accord renforce un peu plus le rapprochement alors que Microsoft est déjà rentré au capital de Mistral à hauteur de 15 millions d'euros.
8h06, c'est le bal des semestriels qui se poursuit et il y aura les résultats Tesla ce soir à Wall Street. Et après une longue traversée du désert, le constructeur automobile semble sortir peu à peu la tête de l'eau. Ses ventes, en tout cas, ont retrouvé du dynamisme en Europe, là où la marque était boudée l'an dernier, Justine Vassogne.
Au deuxième trimestre, Tesla a largement battu le consensus avec des ventes en hausse de 25% sur un an. 2026 sera l'année du retour à la croissance, veulent croire les marchés. Tesla est avant tout porté par l'Europe. 89 000 voitures vendues depuis janvier, soit une hausse de 77% sur un an. Le retrait d'Elon Musk de la scène politique y est pour beaucoup. La flambée du prix des carburants aussi. En Allemagne, les livraisons de Tesla ont bondi de 225% au premier semestre. En France, la Model Y est la voiture électrique la plus vendue depuis janvier, devant la R5. En Chine aussi, Tesla progresse légèrement. La marque arrive de nouveau à rivaliser avec les constructeurs locaux grâce au succès de sa modèle YL, un véhicule avec 3 rangées de sièges, une disposition dont raffolent les Chinois. Un modèle que Tesla vient de lancer aux États-Unis. Avec lui, le constructeur espère retrouver une dynamique sur ce marché qui lui résiste depuis l'arrêt des crédits d'impôt pour les voitures électriques décidées par Donald Trump.
Et puis aux États-Unis, dans le secteur pharmaceutique, une nouvelle bataille en justice sur le front des médicaments anti-obésité. C'est Novo Nordisk qui poursuit son concurrent Eli Lilly pour publicité mensongère. Le Danois estime en fait que l'Américain utilise des études obsolètes pour dénigrer ses produits dans une campagne, ce qui sème selon lui la confusion chez les consommateurs.
Merci beaucoup Léo Dumas. Les marchés tout de suite, 8h07. La tendance à moins d'une heure de l'ouverture, Étienne Brack.
Du vert, plus 0,3% pour le CAC 40. Beaucoup de publications à arbitrer dès ce matin. On parlera dans une demi-heure en détail de Airbus, qui n'a certes pas publié ses résultats. Ça sera jeudi 30 juillet, mais qui a revu hier ses objectifs à la hausse pour 2029 avec un programme de rachat d'actions également. 5 milliards d'euros d'actions Airbus qui devraient être rachetées sur les 3 prochaines années. Le titre gagne 2,7%. C'est un poids lourd du CAC 40. Un autre poids lourd, pas du CAC 40 cette fois, mais de la bourse espagnol, c'est Santander qui a publié ses résultats. Forte réduction des coûts, ce qui permet notamment d'afficher une résultat net en hausse de plus de 17%, hein, quand même, au-delà des 3,8 milliards d'euros. Santander qui publie ses résultats avant BNP Paribas, hein, ça sera demain. Et d'ailleurs, on reçoira son directeur général délégué vendredi matin pour revenir sur ses résultats. Ce soir, vous aurez Alstom, Moncler et puis surtout Alphabet qui va publier ses résultats. Tout cela devrait animer le marché actionnaire. l'inflation d'une façon probablement positive. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien, hein, y compris aux États-Unis. Hier, vous avez Supermicrocomputer qui gagnait 20% après la publication de ses résultats. Et ça permet de compenser les inquiétudes sur le Moyen-Orient et notamment sur le pétrole. Hein. Le baril de Brent est quand même à $92 pour la première fois en l'espace de 6 semaines, quand les cours du gaz en Europe sont au-delà des 60 euros pour 1 mégawatt-heure.
Merci Étienne Brac. Culturia, tout de suite.
Good morning business. Culturia.
La France veut se faire une place dans la course aux robots humanoïdes. À Paris, la start-up Huma vient de dévoiler son premier prototype, fondé il y a seulement 9 mois par d'anciens de Tesla. Elle veut bâtir un champion européen de la robotique, mais avec une philosophie différente de celle de ses concurrents. Reportage Léa Benaïm.
À l'entrée des bureaux d'Huma, un vieux livre raconte déjà une partie de l'histoire Zygépuce au XXIe siècle. Cette bande dessinée, publiée en 1934, mettait déjà en scène un robot humanoïde. Rémi Cadenne, le fondateur d'Huma, raconte que sa grand-mère l'a lui lisait lorsqu'il était enfant. C'est ce qui lui a donné envie de construire des robots. Quelques années plus tard, ce rêve a pris forme. Les équipes viennent tout juste de baptiser leur premier prototype, Astro, en hommage au célèbre manga d'Osamu Tezuka. Développé en seulement 9 mois, il mesure 1,60 m pour 50 kg. Et Astro a déjà franchi une première étape cruciale, l'équilibre, qui est selon Rémi Cadenne le pilier de la robotique humanoïde.
C'est grâce à l'intelligence artificielle que nous pouvons garder l'équilibre de ce robot. Donc c'est un réseau de neurones artificiels qui est connecté aux senseurs du robot, notamment au moteur. Et on a entraîné à tenir le robot debout.
Tenir le robot debout, c'est déjà un exploit. Et si personne ne cherche à lui faire faire du kung-fu, des saltos ou un marathon, les ambitions sont beaucoup plus concrètes. Construire un robot capable d'être vraiment utile. D'ailleurs, Rémi Cadenne considère d'abord l'entreprise comme un laboratoire d'intelligence artificielle.
70% de ce qu'on fait, c'est de l'IA. C'est là où le progrès en ce moment est le plus important. Il va permettre de débloquer des nouvelles capacités chez ces robots. On développe une IA qui est généraliste, donc qui peut être appliquée à tout un tas de robots, pas juste des robots humanoïdes, mais on co-design aussi les robots pour les rendre encore plus adaptés et augmenter encore plus leurs capacités.
Le robot n'est finalement que la partie visible de leur technologie. L'entreprise développe à la fois le hardware et le software avec son propre modèle d'intelligence artificielle, une IA qui demain pourra aussi équiper d'autres robots conçus par d'autres fabricants. Pour y parvenir, la start-up parisienne mise sur une approche différente de ses nombreux concurrents. Plutôt que d'entraîner son intelligence artificielle avec d'immenses volumes de données, l'entreprise veut que ses robots apprennent comme des humains.
Ces robots doivent apprendre comme nous pour être adaptés au plus à notre environnement, à nos tâches, pouvoir nous aider. Et donc avant même de monter en échelle en termes de données et de puissance de calcul, on a développé une méthode qui est radicalement efficace, une méthode d'apprentissage qu'on appelle Real-Time Learning, qui est une spécificité de Huma, qui permet aux robots d'apprendre très rapidement en regardant tout un tas de gestes que l'humain peut faire.
À date, Astro n'est encore qu'un prototype. Dans le laboratoire, un câble de sécurité reste accroché au robot pendant les démonstrations. Une simple chute pourrait endommager la machine, ralentir son développement et faire perdre un temps précieux aux équipes. Car ici, tout est pensé pour aller le plus vite possible.
On est en discussion avec une cinquantaine de clients qui travaillent dans les centres logistiques et dans l'assemblage léger dans l'industrie. Et donc à la fin de l'année, on va avoir nos premiers robots qui vont être déployés pour valider la technologie et aller de prototype vers l'industrialisation, vers la commercialisation de cette technologie.
Huma ne veut d'ailleurs pas vendre ses robots, mais les proposer sous forme d'abonnement. Les entreprises pourront ainsi augmenter leur flotte pendant le pic des commandes, puis la réduire lorsque l'activité ralentit. Le prix, lui, n'est pas encore fixé. Reste désormais à transformer cette ambition industrielle. Car le véritable défi sera d'abord de convaincre les entreprises qu'un robot humanoïde peut enfin quitter le laboratoire pour aller travailler.
Good morning business.
French Tech.
La French Tech ce matin, Frédéric Lepotier est avec moi, président de Terradial. Bonjour.
Bonjour.
Acteur de la néphrologie, de la dialyse, c'est bien ça, PME nantaise. Vous relocalisez la josamycine. Alors, on connaissait à l'époque cette molécule, ce médicament sous le nom de josacine, mais c'était une marque, la josacine. Avant de savoir ce que vous allez en faire sur notre territoire, déjà, à quoi sert cet antibiotique ?
Alors, la josamycine, c'est un antibiotique de la famille des macrolides et qui soigne des maladies dans le domaine respiratoire. Donc effectivement, c'est un médicament qui a disparu de nos pharmacies depuis 2022.
Pourquoi il avait disparu ?
Par le choix de l'industriel qui le produisait. C'était un industriel japonais qui, comme des grands groupes internationaux, a décidé de relocaliser ses investissements. On ne peut pas dire qu'il y avait véritablement un problème sur le modèle économique. Effectivement, il n'était pas satisfait du prix de remboursement et c'est une insatisfaction que l'on rencontre chez beaucoup d'acteurs.
Oui. Hein.
Mais Terradial a eu cette information que ce géant japonais quittait le territoire à un moment où nous nous posions la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait comme compétences que nous ayons dans notre entreprise pour justement promouvoir, fabriquer ces médicaments. Hein, c'est un esprit d'innovation que nous avons chez Terradial. Et je crois un sens des responsabilités, notamment depuis le Covid, qui consiste à entendre « il faut retrouver une souveraineté sanitaire ». Alors, on ne s'est pas jeté sur ce produit, on a fait attention de regarder effectivement si le modèle économique était viable pour une PME nantaise comme Terradial. Nous avons regardé au niveau de nos compétences en interne qu'est-ce qu'il fallait pour structurer et créer ce dossier. Nous nous sommes intéressés aux partenaires français puisqu'il s'agissait de réintroduire en France une filière de fabrication. Donc nous sommes associés avec un laboratoire pharmaceutique qui a une filière d'industrie qui nous intéresse, donc une usine à Valenciennes qui s'appelle le laboratoire Athéna. Et donc, nous avons décidé de déposer un dossier en 2024. Mais la genèse, c'est 2021.
Donc, vous relocalisez ce Absolument. Médicament-là. Ça concerne combien de patients, par exemple, en France, dans le monde ? On est sur quelle
nous
proportion ?
Nous avons les chiffres. Effectivement, en 2020, 2021, 2022, il y avait à peu près presque 300 000 patients bon an, mal an en France qui utilisaient cet antibiotique. Hein. Donc, l'idée, c'est à terme, dans 2-3 ans, effectivement, de retrouver ce niveau ou plus. On touche et on a une problématique très importante. C'est-à-dire, c'est un médicament qui est attendu de la part de la communauté médicale, les généralistes, les infectiologues, les pédiatres, puisque quand on parle d'antibiotiques, quand on a moins d'antibiotiques, eh bien, les bactéries sont très malines. Elles développent ce qu'on appelle des résistances. Et pour combattre ces résistances qui apparaissent sur certains antibiotiques, eh bien, il faut un spectre de médicaments plus large. Et donc, le retour de la josamycine est très attendu. De plus, il y a une deuxième problématique, et notamment depuis le Covid. On entend parler de façon récurrente dans les pharmacies de tensions d'approvisionnement ou même de ruptures d'approvisionnement. Et je crois que la meilleure façon de maîtriser sa production, c'est de contrôler le produit et de rapatrier en France la filière de production.
Concrètement, et on va reparler de remboursement après parce qu'on a un sujet sur le paracétamol qui touche aux mêmes questions, mais concrètement, il sera sur le marché quand ? Est disponible quand ?
Alors c'est une très bonne question puisque effectivement nous célébrons ensemble, nous sommes très satisfaits et fiers que le 19 juin l'Agence de sécurité du médicament, l'ANSM, nous a accordé l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Mais c'est pas fini. On a aujourd'hui une étape cruciale qui est de négocier un juste prix de remboursement avec la Haute Autorité de Santé, la HAS, comme vous l'avez cité, pour le paracétamol. Et donc nous allons mener ce travail. Nous avons déposé un dossier. Alors voilà qui reprend à peu près le prix qui existait auparavant. Néanmoins, nous demandons aux autorités sanitaires de reconnaître qu'une PME comme Terradial a su rapatrier, mettre les moyens en 4-5 ans, c'est plus €1 million que nous avons mis sur la table pour faire revenir ce médicament. Et nous demandons à ce qu'il soit revalorisé d'au moins 15%. C'est un écart qui est autorisé dans les textes aujourd'hui.
Oui, parce que là, on est sur les mêmes problématiques que ce sujet paracétamol. C'est-à-dire que les industriels ont mis des investissements pour relocaliser. Oui. Et aujourd'hui, on leur demande, plutôt que de leur revaloriser le prix, de le baisser parce que ça coûte trop cher à la sécu. L'idée, c'est de pas rencontrer la même situation pour votre produit.
Alors, tout médicament, tout produit s'apprécie l'un après l'autre. Et effectivement, nous parlons d'une josamycine qui avait complètement disparu. Donc, nous sommes sur une molécule princeps, hein, comme on dit. Il n'y a pas d'autre alternative en France. Donc,
rien ne s'est développé depuis.
Depuis, rien du tout. Donc, nous visons au moins le prix que nous avions auparavant et une revalorisation pour reconnaître les efforts que nous faisons avec Athéna pour rapatrier la production en France.
Donc, Donc, il sera fabriqué dans quelle région ?
À Valenciennes, dans la région de Valenciennes, oui.
Et il a fallu embaucher des équipes pour reconstruire cette chaîne de production ?
Alors, Athéna est un groupe industriel qui possède déjà toute la structure, mais là, comme dans beaucoup de domaines, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et on a dû mettre pendant 4-5 ans des ressources clés sur ce projet. Et donc, c'est très important que les autorités de santé, que ce soit la NSM ou la HAS, vraiment prennent le temps nécessaire pour valider la sécurité, pour valider l'efficacité. Et donc, ils ont accordé à Terre Radiale ce label. Il est très important que, sur des aspects plus administratifs, ça ne traîne pas en longueur sur quelques semaines ou quelques mois, parce que pour une PME, c'est un calendrier qui compte en termes de moyens et de ressources.
Bon, très bien. Merci Frédéric Lepotier d'être venu nous voir pour nous parler du retour de la Josamycine sur le territoire français. Président de Terre Radiale avec nous dans la matinale de l'économie. Dans un instant, Vanguard fait le pari d'intéresser les Français aux ETF. On va en parler avec sa responsable France qui sera sur ce plateau. À tout de suite.
Good morning business. Parole de patron.
Et je reçois ce matin Ouda Enebati, responsable France chez Vanguard. Bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. C'est Vanguard qui débarque en France, qui va essayer de séduire le particulier français avec ses ETF. On est en France, rappelez-nous ce que c'est, Ouda, un ETF déjà, pour commencer.
Un ETF, c'est un fonds qui permet aux investisseurs de se positionner sur le marché en ayant une exposition diversifiée sur des indices. Donc aujourd'hui, quand on parle de CAC 40, pour un investisseur, c'est un indice boursier, mais comment investir sur cet indice ? Un ETF est un des moyens, et un fonds indiciel également, pour s'exposer au marché via une seule transaction cotée sur le marché.
Alors comment allez-vous faire pour séduire le particulier français, parce que c'est votre cible, qui a une gestion de son épargne en bon père de famille? Quel est votre argument chez Vanguard pour le faire s'intéresser à ce produit-là?
D'abord, j'aimerais préciser que Vanguard, c'est le fondateur de la gestion indicielle aux États-Unis. Donc, c'est une compagnie qui a été créée en 1975 par John Bogle, qui est le fondateur du fonds indiciel. Et la philosophie de Vanguard, au moment du lancement de la société, c'est de proposer des outils simples pour que l'investisseur américain à l'époque puisse s'enrichir sur le long terme. Donc, avoir une réussite financière sur le long terme. Cette philosophie-là, on veut la porter en France, à savoir servir les investisseurs à travers les banques, les assureurs, les plateformes digitales, les conseillers patrimoniaux et les aider à mieux servir leurs clients en leur proposant des fonds faiblement chargés. Parce que c'est là aussi l'intérêt des ETF, avoir une exposition au marché, mais très faiblement chargée, et c'est vraiment la philosophie de Vanguard sur ce plan.
Justement, au niveau du business model, comment vous arrivez à avoir des frais aussi bas ?
La façon dont on arrive à réduire autant les frais, parce que Vanguard est le provider le plus compétitif du marché, c'est que on a une structure actionnariale vraiment différente de n'importe quelle société de gestion au monde, à savoir que Vanguard est détenu par ses fonds aux États-Unis et donc indirectement par les investisseurs de ce fonds. Autrement dit, tous les frais qui sont chargés au niveau des ETF servent à gérer les coûts opérationnels de Vanguard et tout le reste est reversé dans les fonds et permet de réduire les frais des fonds.
Vous dites que c'est fait pour gagner de l'argent sur le long terme. Quel est le rendement sur lequel vous tablez ?
Ça dépendra des expositions. On peut avoir un investisseur qui décide de s'exposer aux États-Unis via le S&P 500, en Europe via le MSCI Europe. Donc ça dépendra vraiment de l'exposition et de l'appétit au risque de l'investisseur. Donc on aura des expositions obligataires qui sont également disponibles, qui permettent aussi d'avoir une exposition plus prudente du marché. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des briques aux investisseurs pour qu'ils puissent construire un portefeuille diversifié et toujours dans cette philosophie de faible coût.
L'investisseur particulier pourra avoir individuellement accès à ces ETF ?
Oui, tout à fait, via les enveloppes fiscales type assurance vie, PER, tous ces produits sont le seront de plus en plus disponibles auprès des assureurs, des banques.
Sur des plateformes aussi ?
Sur des plateformes également.
Quel type de plateforme sur lesquelles ce sera disponible ? Par exemple, Revolut, ce genre de plateforme ?
Il y a certains partenariats qui sont signés ou en cours de signature entre Vanguard et toutes les différentes plateformes, mais effectivement, on aura de plus en plus de présence sur ce type de plateforme.
Pour terminer, vous êtes arrivé en mars. Votre feuille de route à vous, c'est quoi ?
Ma feuille de route, c'est d'avoir davantage de visibilité auprès de tous ces partenaires et de servir et de contribuer à la pédagogie des investisseurs français quant à l'utilisation des ETF et l'enrichissement. Parce que quand on voit le contexte problématique des retraites, il est important que les investisseurs
considère un complément à ces retraites-là. Et l'investissement long terme via des produits faiblement chargés, c'est vraiment la clé pour la réussite financière.
Merci beaucoup, Ouda Enebati, d'être venue responsable France chez Vanguard dans la matinale de l'économie ce matin. Dans un instant, le journal de 8h30, il y aura aussi le club de la bourse. Dans le journal, on viendra sur Airbus qui se montre très optimiste à moyen terme. L'avionneur a tenu hier sa journée investisseur. Les chiffres annoncés sont bons avant la publication des résultats à la fin du mois. On va y revenir dans un instant. À tout de suite.
Good morning business, le journal.
8h30, les titres, Léo Dumas.
Airbus à l'offensive sur ses objectifs. Le groupe attend 75% de hausse sur son bénéfice opérationnel dans 3 ans. On voit ça avec Étienne Brack dès le début de ce journal. Le gouvernement du pouvoir d'achat passe à l'action. Au Royaume-Uni, la rigueur budgétaire peut-elle tenir? On fera le point depuis Londres. Et puis un nouveau remaniement signé Jean Castex à la SNCF. Airbus se montre donc très optimiste à moyen terme. L'avionneur a tenu hier sa journée investisseur et il table sur un résultat opérationnel ajusté de 12 à 13 milliards d'euros en 2029, c'est-à-dire 5 à 6 milliards de plus que l'an dernier. Étienne Brack, une nouvelle qui devrait être accueillie favorablement sur les marchés d'ici 30 minutes.
Le titre gagne 2,7% en préouverture car en plus d'avoir relevé ses objectifs, vous avez un groupe qui annonce un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros, donc 5 milliards d'euros d'actions Airbus qui devraient être rachetées afin d'être annulées sur les 3 prochaines années. Cette annonce a été faite hier soir après la clôture des marchés du côté du Royaume-Uni à Farnborough où se tient en ce moment un salon aéronautique. Guillaume Faury s'est montré très confiant sur son carnet de commandes. Aujourd'hui, vous avez quand même plus de 9000 avions à livrer et puis surtout un carnet de commandes qui continue de se remplir sur la partie long courrier, c'est-à-dire les A350, la 350 qui visiblement gagne des parts de marché face au 777 de Boeing. Alors le tout maintenant, c'est de maintenir la cadence. Si vous regardez entre les lignes, 2029, c'est dans 3 ans, c'est du moyen terme. Et à court terme, le groupe ne revoit pas ses objectifs. Alors il le fera peut-être la semaine prochaine, jeudi 30 juillet, à l'occasion de ses résultats semestriels. À court terme, vous avez bien sûr tout le défi de la chaîne d'approvisionnement, qui est bien sûr très tendu. Alors certes, Airbus augmente les cadences, ouvre des nouvelles chaînes de production, mais vous avez quand même beaucoup de problèmes avec notamment les motoristes, que ce soit Pratt & Whitney ou encore General Electric. Et donc, tout cela sera bien sûr à scruter dans les prochaines semaines, notamment jeudi prochain, pas demain, mais dans 8 jours à l'occasion de ces résultats. En attendant, le titre devrait être proche des 200 euros ce matin à l'ouverture. Nous sommes désormais à 11% du record historique touché en janvier dernier.
Merci Étienne Brack. Et alors, sur la 350, en voilà 9 de plus dans le carnet de commandes. C'est Philippine Airlines qui a signé hier avec Airbus pour, en fait, doubler ses commandes totales sur ce modèle. En parallèle, toujours à Farnborough, ça chauffe sérieusement entre Boeing et la compagnie Emirates. Son emblématique patron, Tim Clark, dit tout simplement qu'il ne veut pas des derniers appareils qu'il a reçus de la part du constructeur américain Noah Domain.
Heinz pourrait être intéressé pour en faire des boîtes de haricots. Au salon aéronautique de Farnborough, Tim Clark, le président d'Emirates, n'a pas mâché ses mots contre Boeing. Derrière cette sortie, un problème concret, les retards de livraison du Boeing 777X, un appareil vendu près de 440 millions de dollars l'unité. Les 10 premiers exemplaires devaient arriver en 2020, mais viennent finalement d'être livrés avec près de 6 ans de retard et sont déjà dépassés. Pour Tim Clark, ces avions doivent en effet être tellement modifiés pour être à la pointe de la technologie qu'ils ne répondent plus aux besoins opérationnels de la compagnie. Une raison qui le pousse à affirmer qu'il ne prendra pas ce lot. Pensez tout. L'avionneur se défend. Boeing explique avoir fait évoluer la conception de l'appareil tout au long de son développement afin d'offrir le meilleur produit possible à ses clients. Car au-delà de ses retards, le constructeur américain mise beaucoup sur le 777X pour revenir dans la course face à l'Airbus A350 sur le marché des vols long courrier.
Andy Burnham annonce de son côté son premier coup de pouce fiscal, Léo.
Oui, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni acte une baisse de la TVA sur les factures d'électricité des ménages. Première mesure choc pour concrétiser là sa promesse d'un gouvernement du pouvoir d'achat, mais derrière ça, des questions se posent sur la rigueur budgétaire qu'il entend aussi mener. Les détails à Londres avec Laura Calmus pour BFM Business.
Oui, Andy Burnham veut montrer qu'il agit vite. Sa première mesure, c'est la suppression pendant 6 mois de la TVA de 5% sur les factures britanniques. Pour un ménage moyen, cela représente environ 53 euros d'économie. Mais cette annonce pose déjà une question. Qui va payer ? La mesure coûtera près d'1 milliard d'euros à l'État britannique cette année et le gouvernement assure qu'elle sera financée grâce à l'abandon du projet de carte d'identité numérique. Sauf que plusieurs économistes ainsi que d'organismes indépendants chargés des finances publiques rappellent que ce projet n'avait lui-même pas de financement clairement identifié. Mais ce n'est qu'un début. Andy Burnham promet déjà d'autres mesures contre la vie chère dans les prochains jours. Mais avec une dette qui représente 95% du PIB, il dispose de très peu de marge de manœuvre. Le message envoyé hier à ses ministres était donc très clair. Chaque nouvelle dépense devra être financée. Autrement dit, pour pouvoir dépenser davantage d'un côté, il faudra probablement couper ailleurs.
Laura Calmus à Londres pour BFM Business. Dans le même temps, en France, à 8h35, c'est la ministre de la Transition écologique qui s'apprête à claquer la porte. Monique Barbu présentera sa démission ce matin à Emmanuel Macron avant le Conseil des ministres. Réaction à l'adoption définitive par le Parlement de la mesure qui réautorise des pesticides, mesure à laquelle elle s'opposait. Et puis Sébastien Lecornu lui appelle ce matin à engager des réformes structurelles dès le prochain budget et à les faire adopter dans l'hiver. Avant la présidentielle, le Premier ministre qui se dit en fait dans Paris Match pas très optimiste sur le respect des objectifs de déficit cette année et l'an prochain.
Bercy veut faire baisser le prix du paracétamol, Léo.
Et le ministère reçoit ces jours-ci les laboratoires qui le fabriquent, Opella et UPSA, indignés par cette idée complètement contradictoire, disent-ils, avec les objectifs de souveraineté industrielle, Hélène Cornet.
Le gouvernement veut réduire de 13% le prix hors taxe pour une boîte de Doliprane, par exemple, actuellement au prix de 2,18€ en pharmacie. La rémunération des industriels passerait ainsi de 76 centimes à 66 centimes, une baisse de 10 centimes qui pourrait donc être imposée par le comité économique des produits de santé, histoire de faire réaliser quelques économies supplémentaires à l'assurance maladie, plus de 371 millions d'euros remboursés l'an dernier. Ça fait plus de 10 ans que le prix du paracétamol n'a pas bougé. Le tarif est protégé par un moratoire jusqu'au 1er janvier prochain afin d'inciter les fabricants à relocaliser en France la production des médicaments essentiels. Ils ont d'ailleurs investi dans une nouvelle usine en Isère qui doit livrer ses premières boîtes l'an prochain. Les industriels ne comprennent plus et dénoncent le flou de la politique industrielle et sanitaire en France. Ils demandent d'ailleurs tout l'inverse, une vraie revalorisation des tarifs pour tenir compte de leurs investissements.
Et puis ce remaniement à la SNCF, Léo.
8 mois après son arrivée à la tête du groupe, Jean Castex a décidé de remercier Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, architecte aussi de l'ouverture à la concurrence. Alors il sera remplacé par un binôme, mais c'est là un virage stratégique pour la SNCF, Caroline Morisseau.
Jean Castex reprend les rênes. Christophe Fanichet, considéré jusqu'ici comme l'un des hommes forts du groupe, est évincé. C'est lui qui pilotait l'ouverture du groupe à la concurrence et la stratégie à l'international, en Espagne avec Ouigo, en Italie avec un lancement prévu l'an prochain. Son poste à la tête de SNCF Voyageurs a été scindé en deux. L'actuel directeur des finances et de la stratégie du groupe devient président. Le responsable des TER récupère la direction générale. Tous deux seront chargés de piloter la nouvelle stratégie que veut impulser Jean Castex. Il avait déjà gelé la réforme Destination 2030, le plan de transformation mis en place par Christophe Fanichet, qui prévoyait la création de nombreuses filiales en région afin d'accompagner l'ouverture à la concurrence. Il était très critiqué par les syndicats, qui voyaient une forme de démantèlement de la SNCF. L'ancien Premier ministre semble déterminé à remettre à plat toute la stratégie et piloter lui-même l'ouverture à la concurrence avec, dit-il, 3 mots d'ordre, plus de décentralisation, de performance, mais aussi d'unité au sein du groupe.
Et on a appris ces dernières heures la disparition de Jean-Marc Sylvestre, emblématique journaliste et éditorialiste économique, le visage de l'économie sur TF1 dans les années 90, qui avait aussi présenté et participé à plusieurs émissions ici sur BFM Business ces dernières années. Il est donc décédé lundi à l'âge de 79 ans.
Merci Léo. C'est 8h38, les marchés.
Votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Plus d'infos sur n2f.com.
On est dans le vert ce matin, Étienne Braque, à 20 minutes de l'ouverture.
Plus 0,3% en pré-ouverture. On a toujours deux grands sujets hein, sur les marchés, le Moyen-Orient, avec donc ce pétrole qui est sur des plus hauts de 6 semaines à 92 dollars. le gaz en Europe qui est également sur des plus hauts de plusieurs semaines au-delà des 60 euros. Et puis les résultats d'entreprise, la tech, on en parlera dans un instant avec Alphabet qui va donner ce soir le coup d'envoi des résultats trimestriels des GAFAM. Alphabet, bien sûr, qui est la maison mère de Google. En attendant, beaucoup de résultats à arbitrer ce matin. Banco Santander, qui est l'une des plus grosses banques d'Europe, ça pèse quand même 170 milliards à la bourse de Madrid. Et vous avez un groupe qui annonce ce matin une croissance de ses profits de plus de 10% avec une nette réduction des coûts. Et donc ça profite à la dynamique. Il faudra bien sûr suivre ce titre avant les résultats de UniCredit qui seront également publiés aujourd'hui. Et puis demain, BNP. Demain, ça sera une grosse journée. Vous avez Total Energy qui va publier ses résultats. Le marché attend bien sûr le deuxième trimestre au tournant avec la forte dynamique qu'il y a pu y avoir, que ce soit sur les cours du gaz, mais également sur les cours du pétrole. En attendant, ces cours du pétrole et ces cours du gaz qui continuent de grimper, c'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation, en tout cas à court terme. Et cette inquiétude, elle se voit très clairement sur le marché obligataire avec un 30 ans américain qui est au-delà des 5%. C'est quand même pas négligeable. 10 ans américain qui est au-delà des 4,7%. Quand chez nous, en France, eh bien, on a un 10 ans français qui est proche de ses niveaux de 2009. On frôle les 4%. Le tout alors que la BCE va prendre la parole demain. Alors certes, il n'y aura pas de hausse de taux demain. Mais en tout cas, le marché anticipe de plus en plus, pourquoi pas une hausse de taux dès le mois de septembre. Et bien sûr, ça serait une mauvaise nouvelle pour les finances publiques, pour la dette publique, puisque bien sûr, tout cela devrait se répercuter sur les taux courts, mais également sur les taux longs.
Merci Étienne, vous restez avec moi dans un instant. En effet, le club de la bourse, mais tout de suite, le monde qui bouge.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Annalisa Capellini, on parle ce matin de la tension entre la Chine et le Japon qui est montée d'un cran ces dernières heures pour un tout petit atoll au milieu de la mer des Philippines.
Oui, Okino Torishima, c'est le nom de ce minuscule îlot au milieu de la mer des Philippines, entre Taïwan et Guam, un îlot totalement inhabité à plus de 1700 km de Tokyo. Pourtant, un îlot qui appartient bien au Japon, c'est même son île la plus méridionale. Et pour le Japon, c'est un point absolument stratégique parce qu'il lui permet de revendiquer autour une immense ZEE, une zone économique exclusive. Sauf que la Chine a mené dans cette zone ces derniers jours des exercices conjoints avec les forces russes et que dans ce cadre-là de ces exercices militaires, un navire de guerre chinois a mené un exercice de tir à seulement 180 km, donc de cet îlot. Ça fait partie des côtes japonaises, des tirs menés avec des munitions réelles, selon les médias japonais. Selon le ministère de la Défense japonais, c'est la première fois qu'un incident de ce type se produit dans la zone économique exclusive japonaise. Et le Japon craint surtout qu'au-delà de cet incident, ça soit un moyen de la part des Chinois de montrer qu'ils dominent cette zone, une tentative d'intimidation. C'est pour ça que le Japon a immédiatement protesté auprès de Pékin.
Et ça n'a pas plu aux Chinois.
Non, ils ont eu une réaction très dure. Pékin, par la voix d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a répondu que cet îlot est en fait un rocher et non pas vraiment une île, et donc qu'il ne crée pas réellement de zone économique exclusive, que donc le tir mené par les Chinois est totalement conforme au droit international. Voilà pour la réponse purement juridique. En réalité, il faut regarder tout ce qu'il a dit ce porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, parce que ça nous donne le point de vue de la Chine sur ce qui est en train de se passer en ce moment avec le Japon. Eh bien, Pékin parle de néo-militarisme japonais. En fait, la crainte des Chinois, c'est que le Japon exploite cet incident pour justifier son propre renforcement militaire. Ça fait quelques mois que la Chine a cette crainte-là. Ça s'est accentué à l'automne quand la première ministre japonaise Sanae Takaishi a déclaré qu'une attaque chinoise contre Taïwan, on rappelle que Pékin considère que Taïwan fait partie de la Chine, et bien une attaque chinoise contre Taïwan pourrait contraindre le Japon à mobiliser ses forces armées.
On a dit que l'incident s'était produit pendant des exercices militaires conjoints avec la Russie. Oui. Quel est l'intérêt de Moscou ici, Annalisa ?
Alors effectivement, des exercices conjoints qui ne visaient aucun pays tiers. Ça, c'est le discours officiel de Pékin, mais effectivement, il y a plusieurs intérêts pour les Russes. Participer à cette démonstration de force permet à Vladimir Poutine de montrer qu'il y a une coopération militaire de plus en plus étroite sur le front asiatique. Ça lui permet aussi de soutenir la Chine, qui est devenue indispensable du point de vue économique face aux sanctions occidentales. Et c'est aussi une façon de montrer que la Russie reste une puissance dans le Pacifique, malgré la guerre en Ukraine. En gros, qu'elle est encore capable d'opérer sur plusieurs théâtres à la fois. Pour la Chine, en revanche, c'est un moyen de compliquer la stratégie américaine. Oui, parce que les Américains vont donc devoir faire face ces prochaines années à un tandem sino-russe de mieux en mieux coordonné, de mieux en mieux organisé, et qui peut donc représenter une vraie menace dans l'Indo-Pacifique.
Merci Annalisa Capellini, chronique à retrouver sur notre appli, sur notre site en replay, évidemment.